Bienvenue sur le podcast Mama et Yayato, prolongement du blog collaboratif Les Maters. Nous parlerons maternité, parentalité et éducation avec nos invités. Le nom que nous avons choisi pour notre podcast est une expression utilisée par les enfants au Cameroun pour accueillir leur mère lorsqu'elle rentre à la maison. Hello, hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10e épisode du podcast Mama et Yayato. Oui, 10 épisodes déjà, et pour marquer ce chiffre symbolique, c'est une invitée tout aussi spéciale que nous recevons aujourd'hui. Plus connue sur internet sous le pseudonyme Bessovdi, Danielle Ahanda est notre invitée du jour. Pour la petite histoire, de son blog sur les cheveux afro-naturels, en passant par sa plateforme culturelle Afro-Something, ou encore par son blog actuel Bessovdi et son initiative sur la maternité d'Hier Mama, nous avons toujours suivi ses différentes prises de parole avec beaucoup d'intérêt. Alors, c'était pour nous une évidence de la recevoir aujourd'hui pour parler de maternité. Durant cette belle conversation, nous avons parlé d'éducation bienveillante, de violence éducative, de neurosciences et aussi de transmission, le conflit de loyauté dans la transmission, l'héritage immatériel et aussi la possibilité d'apprendre et de changer sa vision de l'éducation. Pour terminer, elle a partagé avec nous ses astuces pour continuer à poursuivre ses rêves au quotidien tout en étant maman de 3 enfants. Ce 10e épisode, vous l'aurez compris, est beaucoup plus long que les autres et surtout très riche d'enseignements. Sans plus tarder, voici Danielle Ahanda pour Mama et Yayato. Au micro, je suis Téclair et je vous souhaite par avance une très bonne écoute.
Mama et Yayato.
Bienvenue dans notre podcast.
Merci, merci beaucoup. Ben, merci de m'inviter, Téclair. Je suis très contente d'être ici, d'échanger avec toi et de participer au podcast. Merci.
En tout cas, moi, je suis très contente vraiment quand j'ai vu qu'on avait réussi à caler nos agendas de maman pour arriver à échanger. Donc, si tu devais te présenter en quelques mots à nos auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas, que dirais-tu?
Alors, ben, je m'appelle Danielle, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants, j'ai encore du mal à le dire, tu vois, parce que bon, le dernier a 7 mois, donc il faut compter. Donc, je suis maman de 3 enfants, je suis française d'origine camerounaise, je vis en région parisienne avec mon compagnon. Dans la vie, j'ai plusieurs casquettes, on va dire que je bosse dans le digital, voilà, et je suis également blogueuse, donc je tiens le blog bestofday.fr depuis de nombreuses années maintenant. Et donc voilà, je suis créatrice de contenu en fait.
En tout voilà. Cas, c'est maman slasheuse, on va dire, c'est ça?
Exactement, c'est ça, slasheuse, plusieurs casquettes.
Ouais. En tout cas, bah tu j'espère que tu vas nous donner tes secrets de comment tu arrives à jongler.
Je vais essayer.
Donc comment t'es venue l'idée de partager en fait ton quotidien de maman sur la toile?
Alors moi, il faut savoir que j'ai tenu un blog depuis la création du concept de blog en fait. Donc dès que j'ai découvert le concept, enfin, j'avais même pas 20 ans, à l'époque c'était sur Skyblog, j'ai tout de suite ouvert un blog et je n'ai jamais cessé de bloguer. Mes thématiques, ça a toujours été ce qu'on appelle aujourd'hui le lifestyle, mais ouais, un petit peu, mon quotidien. Donc à l'époque, j'étais pas maman, j'étais pas en voie de l'être. Mais mes blogs ont toujours évolué au fil de mes passions, au fil de mes convictions. Et donc, du coup, quand je suis devenue maman, je pense que ce qui m'a poussée à parler de mon quotidien sur mon blog qui existait déjà et sur lequel j'échangeais déjà autour de la culture, la cuisine, l'art de vivre en général, eh bien, c'est parce que lorsque j'étais enceinte, Bah, comme beaucoup de mamans, je pense, beaucoup de femmes enceintes, je consultais beaucoup les forums. Et je me
Ouais.
rendais compte que bah, sur les forums, c'est vraiment des partages d'expériences. Ce sont les personnes qui parlent d'elles, qui viennent, qui disent, voilà, moi, il m'est arrivé ça. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur telle ou telle chose? Je me rendais compte que ça me faisait du bien. Et donc, du coup, comme je consommais déjà des blogs mode, des blogs autour du lifestyle, j'ai commencé à chercher des blogs de maman en me disant,
Ouais.
bah, c'est encore mieux quand tu peux mettre un visage sur la personne qui se raconte. Et donc, j'ai trouvé des blogs de maman et en fait, elles étaient quasiment toutes blanches. Et je me suis dit, mais c'est dommage en fait, enfin, qu'il n'y ait pas de femme noire qui parle de maternité, de sa maternité, de sa parentalité, parce que bah, même si je peux me connecter avec l'expérience d'une maman blanche ou d'une femme enceinte, parce que la grossesse, c'est quelque chose d'universel qu'on a en commun,
Ouais.
il y a quand même des spécificités. Il y a quand même des
Tout à fait.
spécificités, il y a quand même des phénomènes comme par exemple l'hypersalivation que rencontrent beaucoup plus les femmes noires. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas, je connaissais des personnes qui avaient des enfants, qui tenaient des blogs, mais qui ne parlaient pas du tout de cet aspect de leur vie. Donc,
Ouais.
je me voyais pas aller leur demander, oui, alors pour toi, comment ça se passe, etc. On est dans des quotidiens où on est super occupé. C'est un peu, voilà, métro, boulot, dodo. Donc, t'as pas forcément tes copines à côté de toi. Et puis, en plus, moi, en l'occurrence, dans mon groupe d'amis, j'étais la première à devenir maman. Donc, voilà. Et puis, même si on a des parents, même si ma maman, enfin, ma maman, j'ai envie de dire, elle était maman 30 ans plus tôt. Donc,
Oui.
il y a des choses qui ont changé. Et on veut des fois des retours d'expérience un peu plus actuels. Et donc je me suis dit, bah écoute, si moi je manque de ça, et je pense que beaucoup de personnes doivent en manquer. Et puisque de toute façon je blogue déjà sur plein d'aspects de ma vie quotidienne, eh bien pourquoi ne pas parler de ma maternité? Et j'ai commencé à en parler. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment important. Parce que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui touche à la maternité, à la parentalité, j'ai commencé à acheter des livres et je me suis vraiment rendu compte que les femmes noires étaient absentes. C'est-à-dire que si tu vas à la Fnac, par exemple, et tu vas au rayon maternité, parentalité, il n'y a pas un seul livre qui est illustré par une femme noire. Pas un seul. C'est-à-dire que quand comment dire, quand on veut illustrer la maternité, c'est une femme blanche en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais, c'est au-delà de ma petite expérience. Pour moi, c'est politique en fait. C'est d'occuper, de se rendre visible, de dire que nos expériences comptent aussi en tant que femmes noires. On est aussi des mamans. On n'est pas que des nounous. On n'est pas que voilà. Je voulais aussi briser cette comment dire
Le tabou,
voilà donc voilà je me suis dit c'est important c'est vraiment important donc allons-y je vais en parler naturellement comme je le fais pour tout le reste
Ouais.
voilà.
En tout cas, c'est vraiment une prise de parole, je pense, qui fait beaucoup de bien à tout le monde. Et moi, je te suivais en fait depuis un bon moment. Je pense, tu avais un blog sur les cheveux d'abord.
À
Et
faire.
oui, quand j'avais fait mon retour aux cheveux naturels, quand j'étais à Dakar à l'époque, j'étais
Ouais.
étudiante. Et c'est là que j'ai commencé à te suivre après sur Afro Something
Ouais, à faire. C'est devenu à
que j'adorais vraiment. Et
faire.
je me souviens même, tu avais fait célébrer les 1 an d'Afro Something. Oh là là, j'avais trop aimé la déco et tout. C'était vraiment, c'est vraiment, tes prises de parole en tout cas ont toujours été pour moi très rafraîchissantes. Et donc durant ma première grossesse justement. Je te suivais toujours sur là c'était sur Best of D et là quand tu as commencé à parler de d'éducation bienveillante et puis de violence éducative moi ça m'a ça m'a tout de suite, j'ai eu un déclic en fait, parce que je me posais déjà des questions sur, je voulais pas avoir le même modèle d'éducation que soit que j'ai reçu ou que j'ai vu autour de moi. Je voulais certes prendre, on prend toujours ce qui est bon en fait, ce qui est bon pour nous. Et puis, mais je voulais en fait faire des choses différemment quoi. Et mais j'avais rien en fait vers qui regarder. Et puis quand tu as commencé à en parler, je me suis dit voilà, c'est de ça que je parle. Et donc, je sais pas comment tu pourrais expliquer à des personnes qui ne savent pas où, avec des mots simples en fait, c'est quoi l'éducation bienveillante?
Alors, l'éducation bienveillante ou éducation positive ou bienveillance éducative, c'est l'idée selon laquelle un enfant est une personne à part entière. Ce n'est pas une sous-personne. Ce n'est pas, c'est vraiment une personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est un petit peu de d'élever pour moi un enfant et non pas de le dresser. C'est d'élever l'enfant à sa hauteur. C'est respecter ses droits parce que les enfants ont des droits. Il y a une convention internationale des droits de l'enfant et parmi ces droits qu'a l'enfant, c'est d'être respecté en tant que personne en fait. Et on oppose très souvent ce qu'on appelle éducation positive à l'idée de l'enfant roi, en disant que oui, mais parce que bien entendu, quand on parle d'éducation positive, ça veut dire qu'on exclut tout ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Les violences éducatives ordinaires, c'est l'idée selon laquelle pour élever un enfant, en fait, il faudrait le dresser. J'ai pas d'autres mots. Donc ça veut dire qu'on peut violenter l'enfant. On peut, parmi les violences éducatives ordinaires, il y a bien sûr les coups. Il y a le chantage. Il y a les menaces. Voilà. Donc la bienveillance éducative, c'est vraiment avoir une autre approche qui est plus centrée sur le dialogue. Qui est basé sur les besoins de l'enfant. Donc l'idée, c'est d'apprendre à connaître l'enfant, d'apprendre à connaître un petit peu comment fonctionne un enfant en fait, quelle est la psychologie de l'enfant pour pouvoir adapter nos comportements. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles, attention. Moi, pour la petite histoire, comme mes amis. Alors. Je disais tout à l'heure que j'étais la première de mon groupe d'amis à être maman. Et lorsque j'étais enceinte, on avait une discussion avec mes amis où au sujet on se remémorait un peu l'éducation qu'on avait eue. Hein, on a tous reçu des coups, etc. Et moi, je leur disais déjà, moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie de reproduire en fait. Ce côté où tu as peur de tes parents, j'ai pas
Tout à
envie
fait.
de reproduire ça parce que je sais que moi, il m'était amené à faire, j'ai été, pardon, amené à faire des bêtises, j'ai fait des bêtises qui auraient pu avoir des conséquences désastreuses. Tout ça parce qu'en fait, j'avais peur de mes parents, en fait. Et j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai vraiment envie de que mes enfants n'aient pas peur de moi, qu'ils me respectent, qu'on ait une relation basée sur le respect. Bref, donc je disais ça à mes amis. Et elle disait, ouais, mais non, mais moi, de toute façon, si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, je le tape, parce que ces histoires de bienveillance, c'est l'enfant roi, etc. Et donc voilà, les années passent. Entre-temps, elles sont devenues maman. Donc, on se voit régulièrement. Et donc, elles viennent à la maison. Et puis, voilà, on passe une après-midi. Et puis après, elles me disent, non, mais t'es stricte. Et je dis, oui, parce qu'en fait, il y a un cadre.
Oui, tout
Bienveillance éducative ne veut pas dire que les enfants font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, mes filles, elles savent qu'il y a un cadre. Et du coup, à l'intérieur de ce cadre-là, elles ont leur espace de liberté. Maintenant, voilà, il y a des limites. Et elles savent que c'est comme ça, en fait. Et donc, du coup, moi, je les ai toujours élevées comme ça. Et je ne tape pas, pourtant.
à fait.
Je ne punis pas. Mais c'est assez paradoxal parce que du coup, mes copines, elles tapent. Pour beaucoup, elles punissent. Et en fait, moi, elles me trouvent stricte. Parce qu'en fait, en venant à la maison, elles se sont rendues compte que, bah, en fait, il y avait un cadre. Il y avait un cadre et que elles, du coup, comme il n'y a pas forcément de cadre et qu'on fait un petit peu, bah, comme on peut, enfin, c'est assez difficile à expliquer. Mais tout ça pour dire que non, être dans la bienveillance éducative ne veut pas dire que l'enfant est roi. C'est juste en fait apprendre à connaître quels sont les besoins de l'enfant, apprendre à construire une relation avec son enfant qui est basée sur la confiance, sur la responsabilisation. On responsabilise beaucoup les enfants. On leur apprend à, comment dire, à assumer. C'est-à-dire que moi, voilà, une fois, j'ai surpris ma fille, je sais plus ce qu'elle avait fait, et puis elle cachait sa petite bêtise qu'elle avait essuyée, puis le torchon, et puis elle me dit non, non, et tout. Et donc, je l'ai prise à part, je lui ai dit, je veux que tu me dises la vérité. Je veux que tu me dises la vérité. T'as renversé quelque chose. Là, tu es en train de nettoyer. Ça arrive. Ça arrive de faire des bêtises. Alors, du coup, on essaye de comprendre. Est-ce que c'est de la maladresse? Est-ce que, voilà, t'as voulu être coquine, je t'ai dit non et tu as voulu y aller quand même. Donc voilà, donc tu comprends que tes actes ont des conséquences et que je ne vais pas te manger, je ne vais pas te taper. Par contre, je veux que tu assumes ce que tu as fait et on en discute en fait. Et moi, voilà, c'est comme ça que je m'efforce d'élever les enfants. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu la bienveillance éducative. Et ma foi, ça se passe bien.
En tout cas, ouais, j'espère vraiment que, enfin, que les personnes qui se posent des questions sur le concept, ça va les inspirer. Et justement, pour te nourrir de ça, je suppose que tu as dû lire beaucoup. Est-ce que,
Oui. Alors,
comment ça s'est passé le processus? Ouais.
j'ai beaucoup lu. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que très tôt, enfin, dès l'âge de 18 ans, en fait, en guise de job, je faisais de la garde d'enfants.
Ouais.
Donc, j'ai pu garder des enfants de 18 à 25 ans. Et même plus tard, genre en petit boulot, parce que quand j'avais arrêté de travailler et que je m'étais consacrée à Afro Something, et genre en gros en complément de revenus, et ben en fait je gardais, je récupérais des enfants à l'école, voilà, donc j'ai gardé beaucoup d'enfants en fait, genre
Ouais.
je suis la nanny. Et du coup j'ai pas, enfin, comment t'expliquer? Du coup, j'ai côtoyé énormément d'enfants dont j'avais la responsabilité, enfin, en l'absence des parents. Et ça m'a permis, en fait, de me forger une autre idée de l'éducation en dehors de celle que j'ai reçue, en dehors du milieu dans lequel je grandis. Parce que, ben voilà, moi, j'ai grandi, je suis d'origine camerounaise, j'ai grandi dans un milieu qui est africain. Et là, bah, les enfants que je gardais, c'était plus des familles blanches. Et donc, du coup, c'était une autre manière de faire. C'était pas forcément mieux, mais c'était différent. Et moi, ça m'a permis un petit peu de confronter un peu. Et du coup, sans même être dans un projet de parentalité, eh bien, en fait, je pense que voilà, il y avait ces petites graines qui germaient un petit peu en moi. Et du coup, quand je suis devenue maman à mon tour, j'ai en fait un petit peu confronté toutes les expériences que j'ai eues et bah, ça m'a conduit à me documenter. Parce qu'en fait, comme toi, effectivement, je savais ce que je ne voulais pas, mais je n'avais pas forcément d'outils pour faire autrement. Et moi, en fait, je suis tombée dans toute la littérature autour de l'éducation des enfants, des neurosciences, parce qu'aujourd'hui, on se base énormément sur les neurosciences pour comprendre comment fonctionne un enfant, pour comprendre pourquoi est-ce que un enfant, quand il arrive au supermarché, il devient fou et qu'il peut faire une crise et se jeter par terre parce que vous lui avez dit non pour un paquet de bonbons, eh bien, la science a les neurosciences ont une explication à ça. C'est parce que la combinaison entre les néons du supermarché, le bruit, éventuellement la fatigue, Tout ça fait que, à un moment donné, eh bien, en fait, j'ai envie de dire, il y a des connexions qui ne se font plus au niveau du cerveau. Et les neurosciences aussi nous enseignent que la maturité du cerveau des petits adultes, on va dire, c'est à partir de 6 ans. Donc, en dessous de 6 ans, on a affaire au cerveau qui est complètement immature. Donc, il n'y a absolument rien de logique. Et donc, en fait, moi, si tu veux, donc, moi, mes bases, c'était le maternage. J'ai commencé à materner, donc ce qu'on appelle maternage, ça va être toutes les pratiques qui permettent une... Je schématise, mais une non-séparation de la mère et de l'enfant. Ça veut dire allaitement, portage, ce qu'on appelle le cododo, dormir avec son enfant. Voilà, donc toutes ces pratiques-là sont regroupées autour d'un terme qui s'appelle le maternage. Et en fait, moi, j'ai commencé à me documenter sur le maternage, c'est-à-dire sur l'allaitement, sur le portage, sur... Et en fait, dès que tu commences à te documenter sur ces sujets-là, sur la grossesse au naturel, tu tombes forcément dans tout ce qui est éducation positive, etc., parce que c'est des auteurs qui font les mêmes recherches. Donc, je lisais un bouquin qui était préfacé, un bouquin qui parlait d'allaitement et qui était préfacé par Isabelle Filioza, qui est une ponte, je dirais, en matière de tout ce qui est littérature autour de l'éducation des enfants. Voilà, je tombais sur une conférence qu'elle donnait avec le docteur Catherine Guéguen, qui est psychologue, qui a également écrit de nombreux ouvrages. Et en fait, je me suis vraiment passionnée pour ça, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai lu plein d'ouvrages et j'ai même suivi une formation parce que à force de parler de ces sujets sur le blog, j'ai vraiment voulu aller plus loin et accompagner des femmes. Je dirais plutôt des femmes noires parce que bon, j'exclus pas les autres femmes, mais surtout les femmes noires parce que comme je te le disais, je trouve qu'on est complètement invisible sur toutes ces questions autour de la parentalité, la maternité, et du coup voilà, c'est comme ça que je suis tombée là-dedans, mais je me suis documentée honnêtement. Je me suis pas contentée de me dire, bon, bah, voilà, je veux juste pas taper mes enfants. Je me suis
Tout
vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des méthodes, il y a des méthodes qui existent. Et les méthodes, elles sont basées sur les neurosciences. Par exemple, on va te dire, plutôt que, on va, les neurosciences t'expliquent que, par exemple, le cerveau du tout petit, on va dire jusqu'à 2 ans et demi, voire 3 ans, dans certains cas, traite ou ne traite pas ou traite très mal la négation. C'est-à-dire la construction de la phrase
Oui.
négative. Le cerveau immature de l'enfant, eh ben en fait, ne le traite pas. Donc quand tu dis à l'enfant, lui ce qu'il traite, le cerveau, c'est l'information qui est contenue dans la phrase. Et donc du coup, quand tu dis ne monte pas sur cette table, le cerveau immature comprend monter table. Et donc du coup, vous avez un enfant, vous allez lui dire ne touche pas à ça. Il va vous regarder et il va toucher et il va vous sourire. Et là, vous allez lui dire mais attends, il me provoque en
C'est ma
plus.
fille.
Non, mais attends, je lui dis non, il me regarde et il touche et il sourit. Mais en fait, c'est parce que son cerveau est complètement immature. Donc, plutôt que d'employer des phrases négatives, on va plutôt changer l'approche. Et on va donner des informations à l'enfant pour l'orienter autrement. Donc plutôt que de lui dire ne monte pas sur cette table, on va plutôt lui dire tiens, assieds-toi là. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que face à ça, on va lui dire assieds-toi plutôt là. Au lieu de lui dire ne tape pas, on va lui dire tiens, bah caresse, on caresse. Voilà, on va lui donner en fait une information qui est contraire à l'action qu'il est en train de faire sans employer une phrase avec une tournure négative parce qu'il ne la comprend pas. Et après, vers 3 ans, il commence à comprendre. Donc plutôt que de dire à l'enfant ne cours pas quand vous sortez, vous
Oui,
lui
ça
dites
je l'ai expérimenté.
voilà,
Marche.
alors on va sortir, marche à côté de moi.
Oui.
Et c'est juste ça, en fait. C'est
Ouais.
voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais ça s'apprend. C'est voilà. Donc, moi, j'ai suivi une formation autour de ça, même plusieurs petites formations. En fait, dès que j'avais l'occasion, dès que j'avais un petit peu de sous, je prenais des petites formations en ligne auprès de personnes qui font du coaching en accompagnement parental. Mais au début, c'était vraiment personnel. C'est-à-dire que c'était vraiment pour me nourrir, pour nourrir mon expérience de parent. Et j'ai commencé à en parler sur le blog de mon expérience. Et je recevais tellement de questions de maman, mais tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je les connecte, en fait, ces mamans. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'il y ait quelque chose où on va pouvoir parler de nos expériences
Ouais.
librement. C'est-à-dire que moi, en fait, tout ce que je reçois, il faut que j'arrive à le collectiviser. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai créé Dear Mama.
Bah, ouais.
Voilà, c'est un concept, voilà, où en fait, je fais des rencontres autour de thèmes qui sont liés pour beaucoup à la parentalité. Après, il y a des talks qui sont pas spécialement liés à la parentalité, mais ça, c'est différent. Mais du coup, voilà, j'organisais à peu près 2 fois par mois des rencontres avec 20 mamans et
Ouais.
autour de sujets tels que la charge mentale, tels que concilier vie personnelle, vie professionnelle, etc. Et voilà, durant 4 5 heures, eh bien en fait, on échangeait sur ces sujets-là et moi j'essayais de leur apporter mon expérience.
Ah. Par moment, j'ai cette phase-là où je vois des relents en fait de l'éducation que j'ai reçue et que je ne veux pas donner, qui reviennent en moi, comme si c'était vraiment intégré dans mon subconscient. Je ne sais pas si
Ouais.
tu expérimentes la même chose, parce que même en
Alors.
discutant avec d'autres personnes, d'autres mamans, qui sont entre les deux, soit qui veulent faire vraiment la transition, qui, on va dire, tapent et qui, voilà, et qui ne veulent pas continuer sur cette pente. Enfin, je sais pas si c'est une pente, mais qui ne veulent pas en tout cas continuer à le faire, qui ont l'impression de se battre contre elles-mêmes en fait.
Mais c'est exactement ça.
Oui.
En fait, ce que tu expérimentes, ça s'appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire que j'avais fait un article sur mon blog à ce sujet-là qui s'intitulait Construire les contours de sa propre maternité. Et en fait, le conflit de loyauté, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, en fait, les femmes afrodescendantes, nous avons une éducation qui est essentiellement basé sur la transmission. L'histoire, malheureusement, fait que on n'a pas forcément, nos parents ne vont pas forcément nous transmettre, ne nous ont pas forcément transmis parce que maintenant ça tend à changer, mais ne nous ont pas forcément transmis des choses matérielles. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui leur restait? À leurs parents, à eux déjà, c'est l'éducation, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire. Et ça, en fait, c'est ce qu'on te lègue, c'est ce qu'on te transmet, et c'est à peu près tout ce qu'on te transmet. Et donc, du coup, c'est un espèce de patrimoine immatériel, mais il y a que ça, c'est super important. Enfin, quand on voit des célébrités qui se déchirent pour des héritages, et on se dit, mais franchement, ils abusent, ils ont déjà pas. Enfin voilà, je parle par exemple, je prends l'exemple, tu sais, de Johnny Hallyday, le conflit avec ses enfants, parce qu'en fait, il n'a pas légué à ses enfants, mais il a légué, etc. Et eux, ils disent, ouais, mais c'est pas une question d'argent, en fait. C'est une question que nous, en fait, on a grandi avec notre père, on a, etc. Même si il y a quand même une question d'argent, mais
Ouais.
ça illustre très bien, en fait, cette question de transmission. Et donc, du coup, nous, pour beaucoup, eh bien, en fait, on n'a que ça. Et si tu rejettes ça, finalement, c'est super difficile parce que ça fait de toi une mauvaise personne, en fait. Tu rejettes ton héritage, tu rejettes qui tu es. Et du coup, c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, les parents ou les proches vont le rappeler, vont te dire, Mais tu te prends pour qui, en fait? Tu te prends, bah, souvent, on doit te dire, ouais, tu te prends pour une blanche, c'est quoi ces histoires? Chez nous, on fait comme ça, et pas autrement. Et du coup, c'est vraiment très difficile de s'extirper de ce conflit de loyauté. Ça demande de déconstruire énormément de choses. Ça demande de déconstruire aussi la notion de transmission. Ça demande de questionner la relation parent-enfant. Nous, notre relation avec nos parents. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là. Ça demande aussi beaucoup de travail sur soi. De toute façon, l'éducation des enfants, moi, je vais te dire, comment te dire? Pour moi, c'est essentiellement l'adulte qui doit changer de posture. Tu vois? Pour moi, c'est pas quand les gens me disent, ouais, mais mon fils, il est mauvais, ma fille, elle est comme ça. Je pense que nous-mêmes, enfin moi quand j'essaye d'analyser et je demande toujours aux gens, donne-moi un exemple de situation où là vraiment ça passe pas et tu t'es dit non, là franchement il faut que je le tape ou j'ai crié etc. Et les gens me donnent des situations et vont me dire oui mais bon regarde je lui dis de mettre ses chaussures, il ne met pas ses chaussures etc. Et moi en fait ce que je fais c'est que je déconstruis la situation et j'essaye de donner des options à l'adulte et l'adulte se rend compte que bah ouais en fait ouais j'avais le choix, j'avais le choix de traiter cette situation autrement. En fait, mais comme moi, enfant, on m'a jamais laissé en fait l'opportunité de dire non, j'ai pas envie de mettre ces chaussures-là. Du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que parce que comme c'est, bah, comme je te dis, la relation parents-enfants. Grands-parents, j'ai envie de dire. Et ben en fait, il y a beaucoup de tu l'as dit toi-même. C'est il y a beaucoup de d'inconscient de qui rentre en ligne de compte. Je vais pas faire de la psychologie de trottoir, mais c'est un peu ça. Et en fait, ce qui se produit, c'est que c'est des émotions en élastique. On les appelle comme ça. C'est-à-dire que face à une situation, toi, tu es renvoyé à au toi enfant. Et malgré toi, finalement, tu te dis. Mais en fait, pour qui il se prend cet enfant, en fait? Tu vois, c'est un peu, tu te dis, mais attends, mais moi, enfant, mais à aucun moment, tu vois, tu te dis ça, et donc, du coup, comme tu le dis toi-même, même si tu es animé de toutes les meilleures intentions du monde, eh ben, tu replonges, entre guillemets, en fait. Parce que je pense que bah voilà, tu as du mal à gérer, en fait, ces émotions-là qui te renvoient, toi, à comment tu as été traité enfant. Et comme je te dis, ça demande de déconstruire. Et déconstruire, ça veut dire, c'est quoi en fait une relation parent-enfant? C'est quoi? Moi, ce que je dis souvent à certaines personnes, c'est, mais en fait, est-ce que ton parent est le parent de ton enfant? Tu vois? Parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais bon, tu sais, moi, quand je l'emmène chez ma mère ou chez mon père, ils font comme ci, comme ça, etc. Et moi, je leur dis, mais reprends ta place de parent. Parce qu'en fait, c'est toi le parent. Et à un moment donné, les grands-parents ne sont pas les parents des enfants. Ce sont des grands-parents. Et encore moins les oncles, les tantes ou autres, etc. Les parents, ce sont eux qui ont l'autorité parentale. Donc, les grands-parents n'ont pas à prendre de décision sans l'accord des parents qui puissent, à un moment donné, porter atteinte à l'intégrité des enfants. Pour moi, en tout cas, c'est totalement exclu. Et c'est vrai que j'ai dû batailler, entre guillemets, avec mes parents, surtout ma mère, parce que bon, c'est toujours un petit peu ce lien entre la mère, la fille, pour lui faire comprendre ça et pour lui faire comprendre que je ne l'exclus pas, je ne juge pas l'éducation qu'elle m'a donnée, mais là, il ne s'agit pas d'elle et de moi, en fait. Il s'agit de moi, adulte, qui m'occupe de mes enfants. Et ça, aujourd'hui, elle l'a très bien compris. Et surtout, bah, en fait, elle voit que, bah, y a beaucoup de bon. Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a dit un jour, mais si nous, on savait tout ça à l'époque, en fait. Tu vois? Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que, à chaque fois, je ne laisse pas passer. C'est-à-dire que quand il y a une situation, par exemple, je te donne un exemple, je vais chez mes parents, j'ai ma petite fille à qui, bon bref, je vais avec ma petite fille qui à l'époque devait avoir, je sais pas, elle devait avoir 9 mois en fait. Et je vis pas avec mes parents, donc mes parents, je les vois pas non plus tous les jours. Donc, t'imagines une petite de 9 mois quand elle arrive, tu sais, c'est tout de suite, t'as même pas enlevé le manteau que tout de suite on prend l'enfant dans les bras. Donc du coup, elle se met à pleurer et ma mère qui dit, ah vraiment, elle est sauvage. Et donc moi, je lui dis, mais non maman, il faut pas dire ça en fait. Elle dit, ah qu'est-ce que ça fait? Je lui dis, non, parce qu'en fait, si tu dis qu'elle est sauvage, en fait, déjà tu lui mets une étiquette. Et ça devient, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on met une étiquette à l'enfant, ça devient en fait un peu comme, bah, l'enfant se dit remplit en fait ce qu'on attend de lui. Donc si on dit cet enfant est sauvage ou cet enfant est comme ça, bah l'enfant se dit mais c'est ce que l'adulte attend de moi en fait. Et donc moi j'explique à ma maman avec des mots très simples. Bon, ma mère elle me dit ah laisse-moi ta science là. Voilà. Mais eh ben écoute, au fil du temps, à ne pas laisser, sans être dans le conflit en fait, eh ben en fait elle s'est, elle a intégré certaines choses et moi je l'ai vraiment vue mais changer. Tu vois moi par exemple, je me suis rendu compte au contact en fait de ma maman avec mes enfants, je me suis rendu compte que ma maman ne disait jamais s'il te plaît. Elle te dit donne-moi le stylo qui est là. Déjà dit donne-moi le bic. Bon. Tu vois? Mais elle va jamais te dire s'il te plaît en fait. Et je me suis et c'est quand j'ai eu des enfants que je me suis rendu compte que mais elle ne disait jamais s'il te plaît. Et une fois j'avais un échange comme ça lors d'un de mes ateliers où il y avait une maman qui disait que bah du coup c'était un peu conflictuel avec son conjoint parce que pour lui il y avait rien à déconstruire et qu'à un moment donné fallait arrêter. Que on est en vie, on a eu cette éducation-là et on est bien portant. Donc on voit pas, il voit pas pourquoi il faut déconstruire des choses. Et donc du coup, il disait, mais pourquoi je vais dire s'il te plaît à l'enfant? Parce que pour lui, l'enfant n'a pas le choix. L'enfant n'a pas le choix. Donc et en fait là, voilà, on voit bien que bah pour moi, c'est clairement quelqu'un qui reproduit. Et surtout qui se dit voilà moi j'ai pas eu le choix donc je vois pas pourquoi je ferais cet effort pour mon enfant et du coup enfin voilà moi je déconstruis tous les jours je questionne j'accepte de me questionner parce qu'en fait je considère que je ne suis pas omniscient je ne suis pas on apprend tous les jours et on apprend d'ailleurs énormément au contact de nos enfants et ça faut en profiter parce que c'est merveilleux en fait. De te dire que quand même, tu arrives à un âge adulte où ton cerveau, il a peut-être atteint, il est peut-être au maximum de ses capacités, dans le sens où pour beaucoup, s'il fallait retourner sur les bancs de l'école, franchement, ce serait compliqué. Mais en fait, tous les jours, tu apprends, et t'as des enfants, et en fait, tous les jours, tu apprends. Tu apprends sur l'espèce humaine, tu apprends sur le fonctionnement de l'humanité, et ça, faut en profiter. Et ça, c'est possible pour moi. Uniquement si tu as une belle relation avec ton enfant, c'est-à-dire que si ton enfant n'a pas peur de toi, si ton enfant n'a pas peur de venir s'asseoir à côté de toi pour te raconter sa journée, voilà, et que tu n'es pas toujours là en train de rabrouer l'enfant, moi je trouve ça formidable en fait.
Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais concernant les proches ou même le conjoint ou le deuxième parent, je pense aussi que c'est très important de définir le modèle de parentalité qui a été choisi et en fait même que les proches parce que bon on vit pas en Afrique, les cellules familiales, c'est un peu différent. On a tout le monde autour de nous. Ici, je veux dire, vu que moi je vis au Québec, je suppose que c'est un peu les mêmes réalités aussi en
Oui,
France.
oui.
C'est vraiment, si on doit confier les enfants, des fois ça peut être à des amis, ça, des fois c'est pas forcément aux gens de la famille, ou même quand
Oui.
c'est des personnes de la famille, je pense que c'est bien que chacun sache que oui, par exemple, moi, je tape pas mon enfant, ou qu'il y ait ces limites-là qui soient claires.
Exactement, que ces limites-là soient claires et quand elles sont outrepassées, eh bien en fait de remettre en fait les gens à leur place, c'est très important. Et moi c'est voilà, moi c'est J'ai l'histoire d'une personne comme ça qui se retrouve dans une fête de famille où voilà, il y a une altercation et sa fille de 12 ans se fait clairement tabasser par l'oncle. Et en fait, elle, bah, pétrifiée dans l'éducation qu'elle a reçue, elle ne dit rien en fait. Et moi, enfin, jusqu'à présent, elle s'en veut. Et moi, je lui ai expliqué à quel point c'était important qu'elle ne laisse pas se produire ce type d'événement. Parce qu'en fait, quand le message que tu envoies à l'enfant, c'est qu'en fait, il ne peut pas compter sur toi pour le protéger. Et ça, c'est super important, en fait, que les enfants sachent que, bah, en fait, voilà, on n'est pas uniquement là pour les réprimander, on est là pour les protéger. Et
Parfait.
ça, c'est important. Après, c'est difficile, comme tu disais de définir le modèle éducatif, etc. Moi, franchement, j'ai pas défini avec mon compagnon un modèle, hein. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est éducation, etc. Bon, déjà, moi, comme je te dis, j'ai accompagné beaucoup de familles parce que je gardais des enfants. C'était des enfants en bas âge. Tu gardes des enfants, tu vas taper les enfants que tu gardes, en fait, tu vois.
C'est clair.
Et voilà, ça, c'est totalement exclu. Donc déjà,
Ouais.
si tu veux, j'ai, comment dire, j'ai appris à être au contact d'enfants et à devoir obtenir des choses d'eux sans les
Ah,
brutaliser.
voilà,
Donc,
ça passe par la
voilà, j'allais
violence.
chercher les enfants à
Ouais.
l'école. Donc il faut qu'ils donnent la main, il faut, t'es responsable de leur sécurité en fait. Et là, bah, tu peux pas, comme moi, tu peux pas les menacer en tout cas, tu peux pas faire ce que tu veux en fait. Donc déjà, moi, ça m'a appris ça, ça m'a appris mes limites, ça m'a beaucoup appris. Mais après, c'est vrai que quand je suis devenue parent, je me suis pas assise avec mon compagnon et j'ai dit, ouais, voilà, moi, je veux pas taper les enfants, etc. Dans les discussions qu'on pouvait avoir, je sais pas, parce qu'on va regarder un reportage à la télé ou autre, moi, je sais que lui, au départ, il disait, oui, mais bon, une fessée, ça fait pas de mal, etc. Alors que lui n'en a jamais reçu, par exemple. Et donc, c'est à ce moment-là que, voilà, j'essaie de lui faire comprendre que bah moi c'était pas ma philosophie. Il était persuadé que je changerais la vie une fois que les enfants seraient présents. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à vraiment me documenter, à lire sur le sujet, moi je lui faisais part de mes lectures, je lui demandais de lire, mais il ne lisait jamais. Et en fait, j'ai compris, non, mais il faut que tu lises ce livre est vraiment génial. Par exemple, un livre d'Isabelle Filiozia qui s'appelle J'ai tout essayé. Et en fait, je lui disais, non, mais il faut absolument que tu lises ce livre, je comprends pas, enfin, je vois pas pourquoi je serais la seule à devoir me documenter, pour me former, entre guillemets, à l'éducation des enfants, parce que oui, on peut se former, même si on apprend sur le tas, on apprend tous les jours, on peut quand même se former, et il lisait pas, il lisait pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, quand je lisais, et qu'il y avait une phrase, un truc, etc., bah, peut-être que j'avais lu le soir et le matin, à la table du petit déjeuner, je disais, non, mais regarde, franchement, j'ai lu ça hier, mais je trouve que ça a tellement de sens, ça a tellement de trucs, etc. Et je pense que du coup, ça a fait son cheminement. Ensuite, quand on a eu, donc, la première qui a 7 ans aujourd'hui, quand il y avait des situations où, ça bloquait, et ben, en fait, je prenais le relais. Voilà, je lui disais, écoute, je gère. Par exemple, au moment du bain, oui, déshabille-toi, non, je veux pas, nanana, nanana, je voyais que voilà, ça montait dans les tours, etc. Et je lui disais, écoute, voilà, je prends le relais, voilà. Et après, j'en discutais avec lui. J'en discutais avec lui et je lui disais, bah tu vois, voilà telle situation, etc. Je pense que si tu prends les choses de telle manière, je pense que voilà, ça peut mieux se passer. Et la preuve que ça pouvait mieux se passer puisque je prenais le relais et que ça se passait en douceur. Donc
Tout à fait.
c'était, voilà. Et du coup, j'ai toujours gardé, en fait, cette manière de faire. Du coup, voilà, comme il dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit le méchant flic dans l'histoire. donc,
C'est
voilà. Donc, c'est vrai
non.
que les enfants parents savent que ma fille, elle sait que moi, je suis le gentil flic et lui, c'est le méchant flic. Donc, elle vient me voir, elle me dit, mais maman, tu sais, papa, il m'a parlé méchamment parce que, etc. Et après, voilà, du coup, je lui dis, bah écoute, il t'a peut-être parlé méchamment parce que tu t'es comporté de telle manière, et puis il est fatigué, et puis la fin de journée fait que des fois on a des mots qui dépassent la pensée, etc. On discute, on dialogue, on déconstruit en permanence. Et on grandit, et c'est ce qui fait qu'on grandit et qu'on grandit avec nos enfants. Parce que je pense que pour beaucoup, on a cet enfant intérieur qui n'a pas forcément souvent été écouté, pas parce que les parents ne voulaient pas, parce qu'il n'y avait peut-être pas l'espace. Moi, je viens d'une famille de 6 enfants, je suis au milieu, donc c'est difficile de venir et de dire oui, moi je. C'est compliqué, même si quand même nos parents l'ont. Surtout mon papa, il l'a pas mal favorisé, puisque je pense que, étant journaliste, il a aussi beaucoup de respect pour l'art oratoire, et donc il avait à cœur de nous transmettre ça dès petit, et que lui, il a exercé une profession où c'est important de prendre la parole, c'est important de s'exprimer. Voilà, mon père, c'était un peu celui qui levait les punitions. C'est-à-dire que quand il arrivait et que on t'avait mis à genoux, les bras tu vois, et t'étais là et tout avec la mort qui coule, et il disait, bon, ça suffit, va dans ta chambre. Donc lui, c'était le gentil flic. Voilà, en même temps, il pouvait, parce que la charge mentale, c'est ma maman qui portait, comme c'est souvent le cas, malheureusement. Donc, on grandit. En fait, il faut accepter de se dire qu'on ne sait pas. Et il faut accepter de se dire que, ben voilà, aujourd'hui, j'ai des enfants et je vais grandir avec ces enfants. On va les élever et non pas les éduquer. Donc voilà.
Vraiment, je secoue la tête parce que je me reconnais dans beaucoup de tes partages et même concernant justement le par rapport à ton conjoint et tout et moi en fait comme j'avais déjà une idée de ce que je voulais pas, j'en ai parlé. Puis maintenant même c'est mon conjoint des fois qui m'envoie des articles et tout. Ah, tu as vu ça?
Oh,
Il parle.
super.
Je vais ok, c'est bon. Donc non, clairement il faut vraiment
Ouais.
parler,
Et moi,
dialoguer.
je prends beaucoup les
Et
choses à l'humour, en fait. J'essaye toujours de ne pas dramatiser, en fait. Tu vois, par exemple, voilà, cette image de bon flic, méchant flic, voilà, on prend beaucoup les choses à l'humour. Je sais pas, il y a quelques jours et tout, je parlais un peu à moi-même, ma fille était à côté, et je disais, on sent vraiment les enfants qui sont pas tapés. Et ma fille qui dit, comment ça? Et elle me dit, et vraiment, elle ne comprenait pas, et elle se, enfin, dans son comment ça, c'était vraiment, parce qu'il y a des enfants qui sont tapés. Tu vois, c'était vraiment, et tu sais, j'ai vraiment dit, bon, tombez, laisse tomber, tu vois. Vaut mieux pas qu'on en parle, tu vois. Et vraiment, parce que c'est vraiment en dehors de sa réalité, mais voilà, donc, un petit peu d'humour de temps à autre, ça adoucit beaucoup les choses, et puis ça permet de dédramatiser et de pas mettre. Moi, c'est ce que je demande toujours aux parents, en fait, face à une situation conflictuelle, je dis, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Oui, mais bon, ils ne m'écoutent pas, machin, nanani. Donc du coup, on est là, il y a opposition, et moi je dis laisse. En fait, laisse, en fait, tu vois. L'enfant veut pas s'habiller, laisse. Oui, mais bon, tu sais, l'éducation, c'est pas parce qu'en fait l'enfant là n'a pas voulu t'écouter qu'en fait il va plus jamais te respecter. C'est faux. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu vas instaurer du respect, tu vas instaurer de l'écoute, c'est un cadre. Et en fait, à partir du moment où il y a un cadre, comme je dis, et ben en fait, à l'intérieur du cadre. Et ben en fait voilà, il y a cet espace un peu de liberté et des fois de freestyle, de laisser aller, où nous-mêmes et tout, on se laisse aller à c'est pas grave en fait, tu vois. Voilà. T'sais, limite, je me dis, bon ok, à charge de revanche, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que la minute d'après, en fait, tu vas demander quelque chose à l'enfant et il va le faire. Parce qu'en fait, vous êtes passé à autre chose. Moi, j'ai vraiment cette technique-là de faire diversion, en fait. Parce
Oui, la
que,
technique
voilà,
de
bloquer, être dans
la
l'opposition, 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 je me dis vraiment quel est l'enjeu. Par exemple, tu sais, le côté où, oui, viens prendre ta douche. Non, je ne veux pas prendre ma douche, je veux prendre un bain. Non, tu vas prendre la douche. Parce que j'ai décidé que là, c'est la douche, et c'est la douche, et c'est comme ça, en fait. Et moi, en fait, je dis quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que l'enfant soit propre. Donc, en vérité, toi, tu as décidé que c'était la douche, elle veut le bain. Oui, mais elle met de l'eau partout quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça. Je lui dis, OK, là, laisse-la prendre le bain. Par contre, chaque action a des conséquences. Donc, tu dis que tu es capable de prendre le bain sans mettre de l'eau partout, etc. Bah, sache que s'il y a de l'eau partout, eh ben, il
Ben,
faudra le nettoyer. Et que la prochaine fois, bah, je te laisserai peut-être pas prendre ton bain. Voilà. Action, conséquence, responsabilisation. Tu responsabilises l'enfant, tu apprends. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es toujours dans l'interdiction, en fait, tu ne permets jamais à l'enfant de prendre ses responsabilités. Et souvent, il faut prendre la responsabilité d'une mauvaise décision. Et ça, c'est des habitudes qu'après, tu gardes jusqu'à l'âge adulte, en fait, et qui te permettent après, notamment, de bien vivre en société avec des gens, bien vivre des relations amicales, bien vivre des relations amoureuses, parce qu'en fait, des gamins, t'as appris à prendre tes responsabilités, en fait. T'as appris que bah, quand tu poses des actions, ça a des conséquences, et que ces conséquences-là, il faut les assumer, soit en réparant parce qu'on a cassé quelque chose, soit en nettoyant parce qu'on a renversé quelque chose, soit en s'excusant parce qu'on a blessé quelqu'un. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Et ça, c'est super important. Et pour moi, c'est des choses que tu apprends dès le bas âge, en fait. Mais si tu es tout le temps, en fait, dans l'interdiction, non, 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 tu ne permets jamais à l'enfant de comprendre que, bah, à un moment donné, il faut qu'il cultive une certaine maturité, en fait. Et qu'il prenne des décisions par lui-même et qu'il accepte que ses décisions ont des conséquences et que il va falloir qu'il assume les conséquences. Voilà.
En tout cas, ouais, c'est clair. Et pour revenir à l'éducation camerounaise, est-ce que il y a quelque chose, enfin, que tu souhaites transmettre et comment tu le transmets en fait à tes enfants, puisque c'est quelque part tu as, je dirais, une double, une triple culture.
Ouais.
Donc, par rapport à la transmission, clairement, bon, on comprend que tu veux pas reproduire tout ce qui est violence éducative. Maintenant, comment tu transmets enfin, et qu'est-ce que tu transmets
Qu'est-ce que je
à
garde
tes
en
enfants?
fait?
Oui, qu'est-ce que tu gardes?
Qu'est-ce que je garde? Alors moi, ce que je garde, c'est vraiment le côté maternant. Tu vois vraiment ce côté, en tout cas moi, de ma propre éducation. Mes parents ont été, par certains aspects durs, mais aussi très maternants. C'est-à-dire que mes parents ont toujours eu une très haute, comment dire, une très haute vision de leur responsabilité en tant que parents. C'est-à-dire de leur responsabilité dans notre accomplissement. C'est-à-dire que mes parents ont toujours tout mis en œuvre pour que on puisse faire de bonnes études. Mes parents ont toujours, alors du coup, je ne sais pas si c'est une spécificité de l'éducation camerounaise, mais bon, après moi, c'est les parents que j'ai eus, hein. Mais je sais que voilà le côté vraiment famille, en fait, tu vois, le côté. Bah ça c'est la famille et c'est non négociable en fait. On va apprendre à vivre ensemble en fait. Et puis le côté aussi comment te dire, le côté freestyle. Tu vois, on n'a pas besoin de que tout
Carré.
soit parfait, carré pour y aller en fait. Et je dis ça parce que du coup là c'est pas forcément spécifiquement l'éducation camerounaise, mais c'est plus l'éducation de parents immigrés, de parents qui, voilà, moi mes parents ils ont immigré, mon père il est venu pour faire une thèse de fin d'études, alors oui il bossait à côté, mais il est venu en France, il avait déjà 4 enfants, on habitait dans un petit appartement et moi dans mes souvenirs c'était un château parce qu'en fait tout était magnifié en fait, tu vois, c'est vraiment ce truc où Vous êtes des enfants, en fait, et on n'a pas à vous faire voir les horreurs du monde. Tu vois, le truc un peu, c'est moi, quand je regarde des photos, enfin, avec mes frères et sœurs, quand je regarde des photos quand on était petit, je me souviens, enfin, d'avoir vu des photos récemment de l'appartement dans lequel on vivait, et je me disais, waouh, puis c'était petit quand même, tu vois. À un moment donné, dans la chambre, il y avait une fenêtre qui était cassée, on avait mis du scotch dessus, tu vois, on avait clairement un appartement qui était presque délabré, tu vois, selon nos standards actuels, tu vois. Et je me dis, mais j'ai pas le souvenir de ça, en fait, tu vois. Moi, j'ai juste le souvenir que, bah, la vie, c'était une fête, en fait. Tu vois, j'ai juste ce souvenir-là. Et je pense que ça, il y a quand même quelque chose de culturel là-dedans, tu vois. Ce truc de, avec des petits bouts de ficelle, et ben en fait, on arrive à les accrocher ensemble et on peut faire des choses. Tu vois, moi, nos parents nous ont jamais dit que c'était difficile financièrement, tu vois. Alors, faut trouver le juste milieu, parce qu'il faut aussi responsabiliser les enfants à ce, enfin, à la gestion financière, etc. Mais ouais, tu vois, moi et ça, du coup, je fais toujours en sorte que même quand c'est difficile, et ben en fait, que rien ne soit grave, en fait, tu vois, que y ait toujours ce côté un petit peu fête, un petit peu fête. Voilà, là pour le coup, je pense que là c'est vraiment à l'africaine, tu vois, on met la musique et on danse, en fait, tu vois.
C'est
Et
ça.
moi, j'ai
On
toujours
fait les bons plats.
Voilà, j'ai toujours des petites chansons, des petits trucs. Elles adorent parce que, en plus avec l'accent de la mère et tout, pour elles, c'est trop fun, en fait. Tu vois, mon petit dernier, Ellie, il a sa chanson, tu vois, c'est Ellie Chouchou, Ellie Doudou, tu vois. Donc, on est là, on part
là
avec les cheveux en l'air, on se réveille. Et puis, allez, on met la musique, on danse, on pousse tout. Tu vois, c'est vraiment ce côté-là, moi, clairement. Ce côté léger, en fait, tu vois, ce côté rien n'est grave, tout est grâce, tu vois, on est là, on est en vie, on n'a pas grand-chose, mais on va y arriver, on va y arriver parce qu'on est ensemble, en fait, et ça, je pense que c'est culturel, parce que je vois mon compagnon, il est un peu plus grave, en fait, et du coup, moi, j'ai tendance à lui dire, ah, ça fait quoi, tu vois, un peu. Laisse l'enfant. Tu vois, c'est paradoxal, hein. Comme quoi, tu vois, il y a du bon et du tu vois, vraiment ce truc-là. Ah, laisse l'enfant, tu vois. Et vraiment ce truc-là, voilà. Rien n'est grave, tout est grâce. On est en bonne santé. Ça fait quoi? Voilà, c'est ça.
Et aussi, je vois que tu transmets aussi l'amour de la cuisine.
Ah, ça.
Oui, ça c'est les bons petits plats camerounais, en tout cas.
Ouais, ça c'est. Enfin, moi j'aime bien faire la cuisine, donc c'est voilà, je transmets à mes enfants. J'espère que qu'ils auront ce. Enfin, déjà, elles aiment bien faire la cuisine avec moi, mais qu'elles auront cet amour aussi pour la cuisine. Oui, bah justement, tu vois, je trouve que dans l'éducation occidentale, tu vois, la nourriture est beaucoup diabolisée. Le fait de faire la cuisine, c'est pas forcément valorisé. Alors que quand tu viens d'une culture où bah, il s'agit de survie, hein, clairement, tu vois, de manger, des fois, c'est de l'ordre de la survie. Et ben en fait, tout ce qui est de l'ordre de la cuisine, c'est
C'est
même
précieux.
glorifié. C'est
Oui.
précieux, c'est voilà. Alors que c'est vrai que dans les sociétés occidentales, on va te dire ouais, mais bon, la femme qui cuisine. Alors soit la femme qui cuisine, c'est rétrograde. L'homme qui cuisine, il n'a pas fait d'études. Tu vois, c'est voilà, il fait la cuisine parce qu'en fait, il n'a pas pu faire des vraies études. Donc même si ça tend à changer, ouais, je leur transmets ça parce que moi j'aime bien
Ouais.
et du coup. J'espère après peut-être que ça va changer et qu'elles auront moins d'intérêt que moi pour ça, mais j'espère que ça va rester parce que savoir se faire à manger quand même c'est important quoi.
C'est vital.
Ouais, c'est vital.
Donc, je pense que là, on est presque arrivé au terme de notre belle conversation. Je voulais juste, ce que je disais, j'ai noté au début, que tu partages tes secrets de maman slasheuse. Comment tu
Ouais.
arrives, en fait, continuer de rester active sur tes différents projets en étant maman de 3 enfants. Si tu peux partager en fait tes astuces avec d'autres mamans qui sont soit qui se disent qu'elles vont pas y arriver ou
Alors, moi,
voilà,
la première
comment tu fais?
astuce. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé.
Ah non, non, ah non, je disais comment tu fais, ma sœur, dis-moi, dis-nous.
Non, honnêtement, pour moi, la première astuce, c'est le lâcher prise. Lâcher prise. Comme je te disais tout à l'heure, comme on dit chez nous, ça fait quoi, en fait, tu vois? Arrêter de vouloir que tout soit au carré, que les cheveux des enfants soient, voilà. Tu vois, moi, il y a une maman de mon entourage, hein, qui habite pas très loin de chez moi. J'ai remarqué qu'elle aimait bien me faire des remarques. Ah, mais toi, tu démêles pas souvent, toutes les semaines, tout ça. J'ai dit non, en fait, parce que moi, je le fais plutôt tous les 10 jours, parce que je considère pas que déjà les cheveux sont pas sales et c'est pas parce que la raie est claire, tout ça, machin, que l'enfant va mieux étudier, l'enfant sera plus heureux, l'enfant truc,
Tout à
etc. Tu
fait.
vois. Et elle, du coup, en fait, c'est quoi? C'est que ses enfants vont jamais au square. Donc, on récupère nos enfants à l'école. Et en fait, il y a un square. Et moi, c'est non négociable. Chez nous, c'est on sort de l'école, on va au square, les enfants se dépensent. Elles y restent 2 heures, 2 heures et demie, elles se dépensent et après elles sont bien, tu vois. Et en fait, elle est tout le temps en train de courir. Ah ben non, je peux pas y aller parce qu'il faut faire la cuisine, parce qu'il faut faire ceci, parce que voilà. Donc à un moment donné, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Et si tu le fais pour toi, qu'est-ce que ça fait en fait? Est-ce que finalement c'est ce temps que tu vas prendre pour faire les cheveux de tes enfants pour qu'ils paraissent propres aux yeux des autres, parce que tes enfants sont propres en fait, c'est pas parce que les cheveux sont pas au cordeau que c'est pas bon en fait. Ces 2 heures-là, tu peux les mettre sur autre chose, tu vois, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux, voilà, donc c'est le lâcher prise. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour voilà, moi je repasse pas, on ne repasse pas ici. On a décidé que aujourd'hui on a des machines à laver et en plus on a des vêtements qui sont faits par les industriels en sorte que t'as pas besoin de repasser.
De
On repasse en
repasser.
fait au besoin, c'est-à-dire que oui, effectivement, quand j'ai besoin d'une nappe, je la repasse à ce moment-là. Et donc en fait, il se passe que j'ai besoin d'une nappe une fois tous les 6 mois parce que je reçois. Donc, qu'est-ce que je vais me casser la tête à repasser toutes mes serviettes de table, toutes mes nappes, les bodys des enfants, les ceci, les cela? Moi, personnellement, je ne repasse pas. Après, certaines vont te dire, oui, mais bon, c'est mon équilibre, c'est mon ceci. Je pense qu'il y a beaucoup de l'ordre de l'éducation qui fait qu'on t'a appris que quand tu tiens une maison, tenir une maison, il faut que ça soit fait. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est définitif, en fait. Rien n'est figé. Les enfants grandissent. Aujourd'hui, tu as des enfants en bas âge. T'as peut-être pas le temps de tenir ta maison pour repasser, pour que tout soit repassé, tout soit carré, etc. Et en fait, dans 1 an, ce sera différent. Et donc, faut pas culpabiliser. Il faut faire vraiment ce qu'on peut. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et pour moi, c'est vraiment, comme je dis, j'en discutais avec une amie, enfin, il y a quelques jours. Et je lui disais, tu vois, moi, en 2020, l'un de mes objectifs, c'était vraiment de m'améliorer en photo culinaire, en stylisme culinaire. Donc, du coup, j'ai lu pas mal de choses sur Internet, etc. Et aujourd'hui, on est confiné. Il s'avère que on est en 2020, l'année est en train de passer. Est-ce que j'attends d'être toute seule à la maison, qu'il n'y ait pas les enfants? Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je fais comme je peux. Je mets l'enfant au dos, je pousse ça, je pousse ceci et je fais mon truc en fait. Et au moins après, j'ai la satisfaction d'avoir fait ce truc pour moi en fait. Et moi, j'ai donné un terme à ça, je résiste. C'est vraiment la résistance. C'est-à-dire que là en fait, dans ton quotidien où il y a ça à faire, et en fait moi, je décide que mon acte de résistance, c'est j'ai décidé que je vais faire ça pour moi. Et continuer à alimenter mon blog, mes trucs, etc. Voilà, je résiste. Là, enregistrer le podcast avec toi, c'est un acte de résistance.
Ah,
Donc, tu
pareil.
vois, je me disais, ouais, mais on va peut-être attendre la fin du confinement, tout ça. Et puis après, je me suis dit, écoute, je suis pas toute seule, en fait. Il y a aussi ça, je sais que tu as un public essentiellement féminin, mais les filles, vous n'êtes pas toutes seules en fait. Et moi, quand on me demande comment je fais, eh ben, je ne peux pas nier le fait que j'ai un compagnon qui prenne ses responsabilités et ne
Ouais.
bède pas. En fait, ses enfants, on les a fait à deux. Donc, si aujourd'hui j'ai besoin de temps parce que j'ai envie de participer à un podcast, eh ben en fait, il peut bien s'occuper des enfants pendant que je participe à mon podcast, en fait. Et ça vaut pour tout, ça vaut pour tout. J'aime bien cuisiner, donc du coup, j'éprouve du plaisir à faire la cuisine. Je suis très multitâche, donc quand je fais la cuisine, je me regarde une série en même temps ou je m'écoute un podcast, comme ça, je me détends en même temps. Mais je peux aussi décider que demain, je ne fais pas la cuisine. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui m'est. Je ne considère pas que mon rôle dans cette maison, c'est de nourrir les gens, en fait. Tu vois, moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien tester des trucs, etc. Voilà. Et c'est. Enfin, tu vois, par exemple, ici, c'est lui qui fait les lessives. C'est lui. Parce qu'il s'y prend mieux, tout simplement. Il n'y a pas quelque chose de génétique qui fait que c'est à la femme de faire les lessives. Non.
Ouais.
Hein, tu vois, lui, il a constaté que maintenant, t'as mélangé ça avec ça. Je dis, écoute, ah, voilà. Donc, voyez, ne touche plus au linge. C'est moi qui fais les. C'est lui qui fait les courses parce qu'il est aussi plus efficace. Parce que moi, en fait, quand j'arrive au supermarché, il suffit que tu me mettes ça sous le nez. Bah, je suis partie avec, dans ma tête, un budget de 100 euros. Arrivée à la caisse, je suis à 200 euros.
200 euros.
Donc du coup, à un moment donné, il faut être rationnel. Et je me dis, mais lui, il arrive à ne pas céder aux sirènes marketing, etc. Donc c'est lui qui fait les courses. Donc c'est aussi fonctionner. Un de mes secrets, c'est vraiment envisager en fait le couple comme une équipe.
Oui, tout à fait.
C'est un peu ça. Donc du coup, on se soutient beaucoup. Enfin, lui, il me soutient beaucoup aussi dans tout ça. Et il a compris que c'est quelque chose qui me faisait du bien. Et puis aussi, c'est quelque chose, ça fait partie de mon business aussi. Donc ça ramène aussi du beurre dans les épinards. Et je ne demande pas de lui rappeler que, hey gars, là, moi j'ai un truc à publier. Il faut que je le publie. Donc il me faut
Ouais.
l'espace pour voir ton aide. Voilà, donc moi, voilà, il y a aussi ma vision du couple qui est une équipe, en fait, tu vois. Ma vision de la famille même, tu vois. C'est pas je cuisine, monsieur met les pieds sous la table, voilà. Moi, souvent, je cuisine, puis quand je finis de cuisiner, je mets sur le canapé, je dis, bon, là, en fait, je suis fatiguée. J'ai même pas la force de servir. C'est lui qui sert, c'est lui qui fait la vaisselle.
La vaisselle,
Et
ouais.
je vais m'allonger, il m'apporte le café après, quoi. Donc ça, c'est important quand on n'est pas, quand on ne vit pas seul, et ben de considérer qu'il n'y a pas des tâches qui sont réservées aux femmes. Et surtout pas tomber dans le piège de se dire que si je fais ça, c'est comme ça que je vais garder mon couple. Moi, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Donc voilà. Donc après, non, vraiment le lâcher prise. Ne pas hésiter à dire à l'autre quels sont ses besoins. Tu vois,
Oui,
voilà,
tout à fait.
il y a 3 jours, je lui ai dit, écoute, moi, on est samedi, c'est ça. Moi, samedi, voilà, je participe à un podcast, donc j'aurai besoin de tel espace, j'aurai besoin de tel espace-temps, tout simplement, en fait. Et donc, du coup, il m'a dit, ok, très bien, bah écoute, on va sortir avec les enfants. Bon, là, il pleut, donc ils sont remontés plus tôt. Mais du coup, voilà, j'ai dit aussi, et pareil à mes enfants, en fait, je ne leur dis pas juste allez là-bas. Tu
Tu
vois?
l'as respecté.
Je leur explique, je leur dis, bah les filles, je participe à un podcast. C'est quoi un podcast, maman? Voilà.
Ouais.
Donc là,
Ouais.
voilà, j'ai besoin de temps pour moi. Donc vous allez aller dans votre chambre et faire ceci. Et ben du coup, tu vois, elles sont pas venues. Donc communiquer, ne pas hésiter à dire à l'autre, même si l'autre ce sont vos enfants, quels sont vos besoins. Moi, des fois, je rédige pour mon blog où je dois prendre des photos et je dis à ma fille, bah là, c'est pour mon blog. Mais pourquoi tu dois faire ça? Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Tu publies des choses sur Internet? Oui, je fais des articles. Ah ben non, là, faut pas toucher le gâteau parce qu'en fait, il faut d'abord que je le prenne en photo. Ah bon? J'explique en fait, j'explique. Et du coup, bah toutes les personnes qui sont ici font partie du projet qui est bah ma vie aussi, tu vois.
Tout à fait.
Et donc voilà, donc c'est juste ça. Et puis après, bah du coup, moi, ça me permet de pas être épuisée, en fait. C'est juste ça. De pas être épuisée physiquement et mentalement par la vie de famille. Et du coup, quand t'es pas épuisée ni physiquement ni mentalement, et ben, en fait, il te reste, en fait, de l'espace disponible. Mais
Ouais.
des fois, je suis épuisée physiquement, attention. Voilà, je veux dire, avoir un bébé de 7 mois qui se réveille 3 fois, voire 4 fois par nuit, c'est épuisant. En plus, je suis pas non plus en grande forme. Mais au moins, mentalement, tu vois, j'ai pas cette charge mentale, en fait. J'ai pas cette charge mentale de me dire que, bah là, purée, il va être 20 heures. Je suis en train de faire mon truc, mais quand même, au fond, je devrais pas être là. Je devrais être en train de faire la cuisine parce que c'est mon rôle, en fait. Tu vois? Et du coup, quand t'as pas ce truc-là, et ben en fait, ben tu peux faire rentrer d'autres choses dans ton cerveau. Ça te permet de t'organiser, de tester des trucs,
Ouais.
de te dire, allez, là, je teste, je publie mon truc, même s'il n'est pas parfait, même s'il y a des coquilles, j'y vais. Tu vois? Je voilà. Et puis s'il y a des coquilles, après tous les gens qui me lisent me diront, bah là il y a telle coquille, puis je corrigerai, mais au moins je l'aurai publié. Tu vois le truc ou
Ouais.
pas?
Oui, tout à fait.
Donc c'est un
Je
petit peu
comprends.
ça, faire un petit peu prendre chaque heure à la fois, chaque jour à la fois. Moi les gens sont souvent surpris parce que j'ai pas de planning, ni de des plats qu'on va faire, ni de trucs, etc. Parce que avec des enfants en bas âge. Enfin, tu vois, moi, ça me rajouterait de la charge mentale, en fait, tu
Tout
vois.
à fait,
De me dire,
ouais.
par exemple, que si je fais un planning des repas, en fait, ça veut dire que c'est moi qui suis en charge de nourrir toute cette famille. Même si dans les faits, c'est moi qui cuisine tout le temps. Mais si je l'écris, ça veut dire que pour le coup, eh ben, en fait, je peux pas y déroger et que c'est à moi, tu vois. Alors que,
Voilà, ouais.
voilà, c'est des petites astuces, c'est des petites feintes, en fait. Ces petites feintes mentales. Pour essayer de pas être noyé en fait dans cette vie de famille qui est très physique, on va pas se mentir, je ne t'apprends rien, tu vois, tu as 2 enfants,
Ouais,
dont
tout à
un en
fait.
bas âge, dont un bébé. Donc
Oui.
ouais, voilà, prendre chaque heure qui vient, allez hop, là j'ai un peu de temps, allez, j'essaye de faire ça parce que ça me fait du bien. Tu vois, voilà, j'essaye de, comme je te dis, bah, comme je disais, bah, hérité de mes parents, tu vois, avec des petits bouts de ficelle comme ça, j'essaye de faire un truc et après j'envoie et ça devient en fait une gymnastique. Donc du coup, ça devient en fait une habitude. Tu te laisses pas abattre, tu y vas, tu fais ce que tu peux et tu envoies. Et puis tu vois ce que ça donne, quoi.
Ouais, et ça,
Voilà.
des bouts de ficelle. En tout cas, bah, je pense que là, ce sera le mot de la fin. Je vais juste donc rappeler tes plateformes où je te laisse les rappeler, là où on peut te
Oui,
suivre. Ouais.
alors du coup, bah, vous pouvez me suivre sur mon blog, me retrouver sur mon blog www.bestofday.fr, sur mon Instagram @bestofday, c'est là où je suis le plus active. Voilà, puis de là, vous trouverez tous les liens. Bon, mais j'ai un bébé qui... T'as vu, hein, quand t'as le bébé qui pleure, t'arrives même plus à parler.
Oui, c'est ça. Non, je comprends. En tout cas, on a eu vraiment pas mal de temps pour échanger. Donc, merci à toi d'avoir pris sur ton temps déjà chargé pour échanger avec moi. Et merci à toutes et à tous donc d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un prochain épisode.
Merci pour l'invitation. À bientôt. Ciao.
À bientôt.
Merci à Daniel pour cette conversation très enrichissante. Nous avons enregistré cet épisode il y a 2 mois de cela et entre-temps nous avons appris la très bonne nouvelle concernant la parution prochaine de son livre Chronique d'une maman extraordinaire. Bien évidemment, nous avons commandé notre exemplaire et si vous souhaitez faire de même, vous pouvez aller sur ces différentes plateformes pour avoir les informations. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et de belles étoiles concernant cet épisode s'il vous a plu. Retrouvez-nous également pour poursuivre la conversation sur la maternité sur notre blog www.lesmater.com et sur Instagram ou sur Twitter @lesmater. C'était Claire au micro, cofondatrice du blog Les Maters et de ce podcast et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.